travail, qu'est-ce que ça allait faire, à quoi ça servait pour les scientifiques qui n'étaient pas partie prenante de ce projet. Et donc, comme je prenais la place d'un scientifique à bord, fallait que moi aussi je mette la main à la pâte, ce qui était plutôt génial, parce que moi ça me permettait aussi vraiment d'expérimenter dans ma chair ce que l'on faisait sur un bateau. Donc José Sarrazin, qui était à l'origine du projet, cette chercheuse en écologie benthique, m'avait pris comme son assistante. Le matin, donc j'étais de quart une nuit sur deux, de minuit à 4h. À 5h30, on se réveille. Bon, quand on est de quart, on ne se couche pas, mais on se réveille. J'écrivais de 6h à 11h du matin. À 11h30, il y avait le déjeuner. Il y a une petite sieste de midi et demi à 13h30. Et à 13h30, je rejoignais le labo de José et effectivement, j'aidais au prélèvement de la faune. Ça, c'était vraiment impressionnant. Donc, le classement de la faune, parce que José, elle travaille sur quelque chose d'assez étonnant, sur la résilience de ces animaux. Si jamais on venait à exploiter, à faire des mines autour de ces environnements-là, s'il y avait des rejets de sulfure plus importants, si l'équilibre chimique de ces territoires était bouleversé, comment cette faune se résilierait? Et donc, nous, on faisait ça, on faisait des prélèvements de faune, on mettait un peu de sulfure. Pour sauver ces animaux, il faut malheureusement les impacter un peu, c'est tous les paradoxes, mais le monde n'est pas manichéen. Et on a eu les résultats d'ailleurs il y a 4-5 ans, il a fallu 4-5 ans d'analyse, ça se résilie très très mal. Donc si on creuse, si on exploite ces environnements, on sait que la faune, c'est fini. Donc ces expériences ont servi à prouver ça. Et donc au début j'arrivais, donc je travaillais avec les scientifiques, mais le matin quand j'écrivais, j'interviewais aussi les scientifiques, il fallait qu'ils m'expliquent un peu, qu'ils me confient leurs mystères, leurs questionnements, leur découverte. Et donc au début, pour faciliter le travail, je me suis dit, bon, j'arrive tout seul sur ce bateau, eh bien, je placarderai le lendemain, le matin, la page que j'ai rédigée la veille du journal, et que ce journal devienne un peu comme la Gazette du bord, afin que tout le monde voit un peu à quoi ça sert que je sois là. C'était ma manière à moi d'aller à leur rencontre et de pouvoir m'intégrer à l'équipage et de leur montrer aussi que voilà, ils allaient participer à l'écriture de ce livre, parce que ce livre, c'est aussi un hommage au travail des scientifiques et des marins qui sont à bord, de la vie sur un bateau et de ces gens qui partent comme ça, voilà, qui se posent des questions très importantes pour notre avenir. Et donc, c'est très vite devenu le journal de bord, et au fur et à mesure, les scientifiques et les marins venaient même de me demander... il me dit, oh, tu viens nous interviewer, tu viens discuter avec nous. Et je me faisais même gronder à la fin, parce que si à 11h du matin, vraiment, les pages n'avaient pas été scotchées, je les scotchais sur le mur du corridor qui nous menait à la cafétéria, au réfectoire, comme ça, comme on fait la queue, les gens avaient le temps de lire le petit journal de bord. Alors au début, personne ne lisait, puis au fur et à mesure, ça a créé comme ça cette espèce de gazette. Et à la fin, je me faisais vraiment engueuler. Si à 11h05, le truc n'était pas scotché, on venait me voir, on me disait, mais tu fous quoi? C'est vraiment paresseux.
Juste là-dessus, justement, comment ils lisent la langue que vous utilisez pour parler de ce qu'ils font? Parce que alors là, pour le coup, ils sont premiers témoins, premiers lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils reçoivent, la façon dont vous ressaisissez leur expérience? Est-ce que vous avez tenu compte de ce qu'ils ont pu vous dire? Enfin, ça a été aussi une expérience finalement collective aussi à cet endroit-là.
C'était une expérience même, on va dire, littéraire, collective, parce qu'à la fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait passer déjà en littérature, en analogie poétique, des découvertes factuelles scientifiques? Donc il faut se parler très longuement, pour qu'on soit d'accord. Parfois, ça prend du temps, parfois même ça peut être très violent. Et dans les livres, dans les causeries ou dans la vie profonde, il y a parfois des phrases, vous allez les trouver un peu bizarres, mais c'est vraiment des phrases sur lesquelles on s'est accordé pour que poétiquement ce soit vrai et scientifiquement ce soit juste. Mais effectivement, c'était un travail des deux côtés, c'est-à-dire que l'interprétation que je faisais, et puis le fait aussi que sur le bateau, chacun est dans son petit laboratoire, il y a des chimistes, des biologistes, des géothermistes, enfin, tout le monde ne met pas en commun. Et là, du coup, tout devenait un peu commun. On savait un peu, le journal de bord créait des passerelles entre ces disciplines, puisqu'on savait ce qu'on faisait dans le labo d'à côté, etc. Alors ça créait comme ça une sorte de... J'ai l'impression, oui, ça crée une sorte de lien, ça faisait un lien, quoi.
Ces profondeurs, vous le dites, sont les derniers lieux les plus secrets de notre planète. Et les découvertes, les hypothèses qui sont travaillées actuellement et que vous partagez avec nous grâce à ce livre sont totalement fascinantes. Ce n'est pas seulement le fait que nous apprenons toujours plus de choses sur ces milieux, c'est aussi que certaines de nos connaissances sont totalement bouleversées par ce qui est découvert ou ce qui est en tout cas mis en hypothèse. Peut-être peut-on parler de ce que Céline Romvaux vous apprend. Elle est géomicrobiologiste.
Oui, elle m'a appris quelque chose parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse, moi, c'est le potentiel, le pouvoir poétique de certaines découvertes scientifiques qui... nous mène dans des réminiscences mythiques parfois. Je ne dis pas que la science prouve les mythes, hein. C'est deux domaines très séparés, mais il y a des liens secrets, des intimités mystérieuses qui peuvent surgir soudainement et nous émerveiller. Ce qui m'intéresse dans la science, en fait, c'est que c'est un potentiel, c'est l'émerveillement que ça peut provoquer et les capacités que ça peut avoir de façonner une nouvelle relation au monde quand on met les mots dessus, quand la littérature ou la poésie arrive à se servir de ça. Et Céline Romvaux, donc j'étais dans le laboratoire. Alors elle s'occupe des liquides sulfurés qui. Alors vraiment, c'est très, si je vous le dis comme ça va être très aride. Elle analyse les fluides sulfurés qui sortent des cheminées hydrothermales. Donc en fait, elle a des préleveurs de fluides et elle analyse les fluides. Autant vous dire, c'est très austère, c'est très janséniste sa discipline. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle fait vraiment. Et à un moment, donc on discutait. Et c'est assez fascinant parce que donc du coup elle dessine toute une cartographie de la circulation de ces eaux sulfurées sous la Terre, et en les analysant on a découvert, c'est une hypothèse qui maintenant est même de plus en plus acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique, c'est qu'il semblerait que ce soit dans des environnements similaires à ceux des sources hydrothermales mais un peu plus en altitude que les briques élémentaires de la vie, c'est-à-dire ce qui a fait ensuite notre ADN, soit né d'une altération des roches et des magmas par une altération de ces fluides sulfurés. Et donc ces sources hydrothermales seraient à l'origine de la vie. La vie ne viendrait pas forcément de l'espace comme on le pense, elle viendrait aussi de la Terre. C'est-à-dire que le minéral créerait le biologique. Waouh ! Ça, moi quand j'ai appris ça, je dois le dire, j'ai l'émotion facile dans ces endroits-là, j'ai vraiment pleuré parce que ça rejoint bien évidemment humain, bien d'humus, la Terre, mater et materia. C'est la même origine. Adam, Adama, c'est la terre rouge, l'argile. Et de penser, et ça m'a ouvert, donc on a discuté, de comment est-ce qu'effectivement la vie et les roches sont beaucoup plus liées qu'on l'imagine dans notre intimité, ce qui est encore une preuve flagrante et sublime que la terre est bien plus que ce qui nous porte et ce qui nous entoure. Elle est ce qui nous fonde. Elle est notre ancêtre. Elle est notre matrice. Alors ça, quand on apprend ça sur un bateau, je vous assure qu'on met du temps à s'en remettre, et toutes les découvertes scientifiques dont je parle sur ça, c'est vraiment des choses qui à chaque fois m'ont décalé, et j'espère que pour les lecteurs c'est aussi le cas, décalé, déconstruisé à chaque fois la vision ou la maigre connaissance que je croyais avoir de la relation du monde et de nous. Et voilà, et c'était à chaque fois, on refondait ontologiquement et métaphysiquement notre être. Et c'est là où la science, pour moi, n'est pas une... Mais merci. Mais c'est vrai que c'est ça, justement, pour moi, qui est très important, c'est comment la science n'est pas le but de ce livre. Les découvertes scientifiques ne sont pas le but de ce livre. Moi, je suis écrivain, encore une fois, je ne suis pas scientifique. C'est comment est-ce que cet émerveillement, cet étonnement nous permet d'affronter ce qui va se passer, donc le bouleversement climatique, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité. On a besoin absolument de refonder notre relation aux choses, de rentrer plus, de créer, puisqu'il l'est déjà, de retrouver le lien intime que nous avons aux êtres et aux choses. Et on voit bien que si la Terre est notre ancêtre, le minéral et le biologique, il n'y a pas l'inerte et le non-inerte en fait. On est tous dans le même bateau, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est ça que ça a permis, ce livre, pour moi.
Ce qui est intéressant aussi avec votre présence sur le bateau, c'est vous êtes écrivain, donc vous êtes un lecteur. Et déjà, depuis le début de la conversation, on a entendu l'Odyssée, on a entendu Dante, vous faites référence à ces livres. Est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu de ça, la façon dont certaines lectures se sont réveillées en vous avec éclat parce que vous étiez face à tel paysage ou face à telle connaissance, comme vous venez de nous le dire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quand même votre rapport aux livres qui était avec vous sur ce bateau?
J'avais apporté beaucoup de livres, oui. Moins que j'aurais voulu, parce que les cabines sont vraiment toutes petites, puis on les partage avec des gens, donc faut pas amener trop d'affaires personnelles. Mais j'avais apporté beaucoup de livres, parce que je voyage toujours avec beaucoup de livres, et parce que j'avais bien conscience que j'allais, comme je le disais au début, j'allais participer à quelque chose tout de même d'un peu mythique. Et donc j'avais pris des livres mythiques avec moi. Et j'avais pris, c'est vrai, la Divine Comédie, j'avais pris l'Odyssée, j'avais pris énormément d'autres livres. Et il y avait un poète que je ne connaissais pas encore à l'époque, mais que j'aurais adoré lire sur le bateau, c'est Roy Rose, qui lui aussi parle de ces moments, qui parle du temps, les poésies verticales. Peut-être je vous en donnerai. Qui explique dans beaucoup de ses poèmes. À un moment, il y a un poème que j'aime beaucoup, mais que j'ai déjà cité à la Maison de la Poésie, mais un autre où il dit il y a un abîme au-dessus, l'homme est un abîme suspendu entre deux abîmes, il y a l'abîme du dessus, il y a l'abîme du dessous et il y a l'abîme en soi. Et c'est ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ressent beaucoup sur le bateau. Donc effectivement, j'avais tous ces livres avec moi et j'avais des images parfois qui étaient. J'ai eu une crise sur le bateau, c'est drôle parce qu'au début, les scientifiques me trouvaient trop émotif et après, c'est eux qui m'ont. Par exemple, je ne sais pas une méchanceté ce que je dis, parce qu'elle sait que je raconte ça, Mathilde Cana. Il y a une géophysicienne, Mathilde Cana, qui était avec moi sur le bateau, qui est très scientifique, qui est très objective, qui se cantonne aux faits, etc. Et là, on était, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est vraiment merveilleuse. C'était la nuit, il était 3h du matin, on était un peu fatigués, on était deux quarts, on regardait le Rov Victor, les petites manipulations, alors toujours la petite bouteille qu'il faut tenir avec beaucoup de précaution pour la remplir de fluide sulfuré. Et alors on fait attention de ne pas blesser des crevettes, parce que dans ces profondeurs, sur les pentes, si vous voulez, ça on verra, sur les pentes de ces cheminées hydrothermales, ça grouille d'une vie très étrange. Et notamment, il y a des animaux que je trouvais, il y a des moules géantes, il y a des poissons chimères, et il y a des crevettes des profondeurs. Ces crevettes m'ont beaucoup impressionné, non pas parce qu'elles ont une forme différente de celle que l'on connaît, mais simplement, elles sont étonnantes à plusieurs niveaux. Elles ont des pattes, elles ont des sortes de nageoires, donc on pourrait penser qu'elles se déplacent et qu'elles... Mais en fait, elles se tiennent par milliers sur des petits canaux le long de ces parois de fumeurs noirs, parce qu'elles mangent les liquides sulfurés. Vous savez, c'est la chimiosynthèse... Enfin, vous savez pas, je l'ai appris aussi. Il n'y a pas de photosynthèse, en fait, puisqu'il n'y a pas de soleil. Donc la vie, là-bas, c'est la chimiosynthèse. Ils synthétisent les liquides sulfurés qui nous feraient mourir pour en faire de l'énergie vitale. Et donc ces crevettes ont délégué à des bactéries, il y a des symbiotes, elles ne mangent même pas, elles n'ont même plus d'estomac et d'intestin, c'est des bactéries qui mangent et digèrent pour elles ces liquides sulfurés. Et si ces crevettes s'approchent trop du fluide, elles brûlent, si elles s'en écartent trop, elles gèlent. Donc moi je regarde ça, je dis d'accord, la puissance de la vie qui va dans ces endroits extrêmement éloignés, mais elles ont des pattes, elles ne s'en servent pas, elles ont des nageoires, elles ne s'en servent pas, elles ont des bouches, elles ne s'en servent pas, mais qu'est-ce que la vie, est-ce que ça n'est pas une malédiction? Pourquoi la vie est allée jusque-là? Qu'est-ce que ça signifie de créer ça? Et là, il est 3h du matin, on est épuisé, et Mathilde Cana me dit, tu sais, peut-être que ces crevettes ont réalisé ce que l'être humain ne pourra jamais réaliser. Elles sont peut-être tout simplement heureuses d'être là et bien d'être là. Elles sont ici et là. Alors, elle me dit ça, et moi alors là, entre les images, les crevettes, Mathilde Cana, une scientifique qui devient Saint-Jean de la Croix, moi je me suis complètement effondré, et il m'est revenu cette image dont je parle dans le livre, que j'ai rajouté après coup, je ne l'ai pas mis sur le bord du bateau, parce que je voulais quand même pas qu'on me prenne pour un fou. Mais j'avais mes notes, j'ai pas tout mis sur le bateau. Il y a, vous savez, ce passage du chant 30 de l'Empyrée, Dante, où il se retrouve au paradis. Alors Dante était... Et voilà, comment est-ce qu'on décrit l'abstrait? Le paradis, c'est extraordinaire dans la Divine Comédie. Comment est-ce qu'on décrit ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas entendre, ce qu'on ne peut pas toucher? Il y est arrivé. C'est assez fou. C'est peut-être un des livres les plus fous de l'histoire littéraire du monde. Et à un moment, il est là, il arrive à l'Empyrée, et il voit, il dit-il, un fleuve en forme de lumière, et il y a la rose mystique qui lui apparaît, il y a les âmes de tous les bienheureux qui sont là, j'écris la poésie dans le livre, et qui regardent la lumière, qui est Dieu, ils la regardent, et durant toute l'éternité, ben, moi j'ai eu l'impression que je voyais mes crevettes. Alors dans une atmosphère beaucoup plus obscure, mais du coup ça m'a fait penser à cet empiré de Dante où ces âmes sont comme hypnotisées, et ne mangent pas, ne bougent pas, et regardent et chantent. Bon là, les crevettes ne chantaient pas, mais elles avaient l'air effectivement d'être assez guillerettes, donc peut-être qu'elles étaient vraiment, elles goûtaient à la béatitude. C'est ce genre en fait d'analogie qui vous frappe, et de communion avec le vivant, mais aussi avec l'éternité.
Oui, parce que ça, vous le ressaisissez de façon poétique, même de façon philosophique, pour dire, nous aussi, comment fait-on pour être finalement ici, maintenant, à notre place? Et il y a quand même l'idée, vous dites, d'une existence relationnelle qu'on pourrait faire nôtre aujourd'hui pour protéger notre planète, pour vivre avec ces écosystèmes. Donc c'est... Là, c'est quelque chose d'extrêmement riche comme découverte pour vous et que vous partagez finalement pour nous, notre quotidien, notre attitude.
Oui, c'était un petit monde, ces microcosmes, macrocosmes, ces animaux dont on décrit vivent sous le régime de la symbiose. C'est-à-dire que plus l'environnement se révèle contraignant, bien plus les êtres vivants se mettent entre eux à s'entraider et à fusionner ensemble pour pouvoir vivre. C'est une très belle analogie sur ce que nous devrions faire. Et donc ces animaux, effectivement, ont délégué, enfin, ils vivent avec des symbiotes qui mangent, digèrent, tempèrent leur corps à leur place, etc. Et ça, c'est la petite chose. Mais effectivement, de quoi on s'apercevait que dans ces environnements marins profonds, qu'on a l'impression d'être très loin parce qu'inaccessible, parce que très toxique, parce que plein de liquide sulfuré, où nous-mêmes, êtres humains, nous ne pourrions pas vivre, et bien que donnent les résultats scientifiques en ce moment? Et c'est pour ça que la France a pris la décision depuis l'année dernière, on va voir ce que ça donne au niveau international, de défendre de manière absolument obligatoire ces environnements marins profonds. C'est parce qu'on s'est aperçu qu'ils sont tellement reliés à nous, à cette place même, à nous-mêmes qui sommes assis ici, si on détériore ces environnements avec lesquels nous sommes d'une certaine manière en symbiose, alors ça va être très compliqué pour nous. Parce que l'océan est un puits de carbone. Effectivement, là, le carbone est emprisonné dans les sédiments. C'est à la base du cycle du fer, du plancton. Enfin, si on touche ces endroits-là, c'est horrible ce qui va se passer. Mais on le sait maintenant. Les études ont été rendues. Alors, nous sommes en symbiose avec ces environnements pourtant très inhospitaliers. Là aussi, ça floue un peu les frontières. On a besoin les uns des autres et on ne peut pas aller exploiter ces endroits qui sont nos matrices, mais aussi nos tuteurs et notre avenir.
Alors, je le disais dans la présentation tout à l'heure, le voyage se poursuit en Colombie-Britannique, au Canada, en septembre, donc il suit l'été, et ces 3 semaines à bord du bateau. Vous atteignez un autre site, donc à Victoria, près de Vancouver. Là, c'est direction l'université, l'Ocean Networks Canada, qui gère une autre installation sous-marine qui est sans équivalent, qui est le réseau Neptune. Là, nous sommes à 2400 mètres sous la surface, 800 km de câbles. Le projet se poursuit et ce qui est très intéressant dans cette deuxième partie du livre, c'est que la réciprocité prévue dans le projet entre vous, l'écrivain, le metteur en scène aussi, Thomas Cloarec, et les scientifiques, cette relation-là, elle va dans les deux sens. Et c'est une forme d'achèvement quand même du projet qui me semble important. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette deuxième partie, cette poursuite du voyage?
Alors, pour ne rien vous cacher, cette deuxième partie était un peu déconcertante pour moi, puisqu'on a vraiment changé totalement. Effectivement, il s'agissait d'aller... parce que les Américains, eux, ont une autre manière d'explorer leurs sources hydrothermales. Et ils ont relié par un réseau de câbles incroyable. Ils ne vont pas dans l'eau, forcément. Et il y a une autoroute de data qui remonte, d'ailleurs, qui sont tellement nombreuses que, ce que je dis à un moment, on ne peut même plus les lire. Donc, on a écrit des livres... Il n'y a plus de lecteurs pour ça. On ne sait plus comment les classer, on ne sait plus comment traiter ces données. Et donc, on était là plus à terre. Et c'est vrai que, du coup, je me disais, qu'est-ce qu'on écrit? Alors, on a rencontré les pionniers des sources hydrothermales, donc les Indiana Jones, si vous voulez, les premiers qui ont plongé à des époques où, quand même, c'était pas à la fin des années 70, début des années 80. Et effectivement, on animait des workshops avec des scientifiques. Comment est-ce que les scientifiques peuvent parler de leur recherche en y mêlant ce que normalement la science ne... en y mêlant un peu des affects. C'est ce qu'on leur apprenait au théâtre, en littérature. Eh ben, notre façon de nous exprimer marche avec nos affects. Ça ne veut pas dire avec une non-fiabilité. Et donc ça, c'était intéressant de cet échange. Mais surtout, et c'est ça le prodigieux du voyage, c'est que là, pour le coup, autant sur le bateau, j'étais encadré, extrêmement encadré, dans un tout petit segment. Sur un bateau, on est sur un radeau, si vous voulez. Et là, au Canada, on se retrouve sur un des territoires les plus gigantesques de la planète. Donc là, il y avait un effet d'échelle. Et c'est là que je découvre, malgré nous, on ne savait pas du tout qu'on allait rencontrer ça, les fameuses forêts pluviales de Colombie-Britannique, qui sont le deuxième poumon vert de la Terre après l'Amazonie. Je crois même que c'est presque équivalent. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était les premiers méga-feux. Et on arrive à Vancouver, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des brumes, comme s'il y avait de la pollution, c'est âcre. Et c'est les premiers méga-feux en 2017, les premières forêts qui brûlent. Et donc, ça avait vraiment à voir avec ce qu'on avait vu sur le bateau aussi. Et il y avait ce jeu de correspondance qui était assez merveilleux. Et effectivement, cet épilogue qui se passe au Canada nous interroge sur d'autres profondeurs, qui sont les profondeurs vertes. C'était très bleu sur le bateau. Et là, le végétal me manquait. C'est une drôle d'expérience de vivre aussi en mer. Nous, on est habitués à être entourés par du végétal. On est dans un environnement où il n'y en a pas. Et là, on était plongés au milieu d'environnements gigantesques, très inconnus. Vous savez, ces forêts sont même pas... On les a même pas vraiment très explorées. Il y a des arbres qui font 70 mètres de hauteur. Enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est surtout un rivage qui n'a pas été touché par l'homme. C'est cette forêt pluviale à des parties de forêts primaires qui se jettent dans l'océan, dans le Pacifique Nord, qui est une mer aux nutriments extrêmement riches. Donc les huîtres sont très très grandes, les pieuvres aussi, les animaux sont très bien portants. Et cette forêt se jette dans l'océan. Et on a comme ça des visions du Jurassic Park, d'une terre que l'homme n'aurait pas encore conquise. Et là aussi, ça a créé, sans le vouloir, ça a créé des échos très forts avec l'expédition. Et c'était assez inattendu. En tout cas, moi, en tant qu'écrivain, ça m'a plu.
On vous sent assez fasciné par le territoire canadien et par la possibilité justement qu'on puisse recommencer quelque chose de plus sain avec notre environnement, parce que les paysages que vous voyez là-bas ne sont plus visibles en Europe. C'est justement cette proximité que vous racontez entre la forêt et le Pacifique. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas cette ivresse dont vous parlez entre deux immensités.
Bon, malheureusement, le gouvernement canadien ne prend pas la voie d'une révolution environnementale, hélas. Mais c'est vrai que le Canada, c'est 18 fois la France et c'est 36 millions d'habitants, avec un territoire aux deux tiers non habité. Alors c'est vrai que les distances... Bon, il n'y a pas de village non plus. Hein. Et puis la contrepartie, c'est que tout est fait pour la voiture et pas rien pour les piétons, parce que c'est des distances gigantesques. Mais c'est vrai que c'est une nature... On a envie de se dire, c'est très étonnant, il y a des gratte-ciels au milieu des forêts, les villes ont poussé très vite, trop vite. Mais la nature est encore là, presque inviolée. Alors c'est peut-être une vue de l'esprit, c'est pas tant inviolée que ça. On sait que les espaces naturels tels qu'on les entend de manière un peu comme ça idéaliste n'existent pas vraiment. Mais c'est vrai qu'on se prend à dire, ah là ce serait bien, c'est comme les sources hydrothermales. On se dit, si on arrivait à protéger ces environnements-là, alors ça nous éviterait d'aller à les réparer. C'est quand même mieux de pas aller réparer des choses et de les laisser en l'état. C'est pour ça que c'est si important. Si on arrive à sauver les sources hydrothermales, si on arrive à sauver les grands fonds, si on arrive à sauver les abysses, ça voudra dire qu'il n'y a pas de fatalité. On peut agir avant de tout dégommer. Et c'est pour ça que ça va être un moment de vérité pour l'humanité. Hein. Là, cet été, la IFM s'est réunie. Le livre est sorti là, donc pendant les débats qu'il y avait en Jamaïque, sur la protection de ces environnements marins profonds, sur le code, vous savez, pour les eaux internationales. Et là, on a eu un sursis de 2 ans. Ce n'est pas une grande victoire, mais ce n'est pas une défaite. Bon, ça veut dire que dans 2 ans, tout va se rejouer. Mais vraiment, je vous assure, même si ces environnements, ils sont difficiles à comprendre, ils ne sont pas très sexy, vraiment, vraiment, la vie de nos enfants, mais même de nos décennies, dépend de notre capacité à pouvoir réfréner notre soif de l'or au profit d'un sentiment plus amoureux pour notre planète. Donc ça vaut la peine de se battre pour ça.
Au Canada, vous avez la chance, et vous l'exprimez d'ailleurs dans votre récit, de rencontrer des grandes figures scientifiques. pour rencontrer l'ingénieur en chef Tom Decky, qui, après avoir travaillé pour l'armée, enfin dans la marine, se consacre en tant que scientifique à un travail de cartographie assez impressionnant. Et il vous explique que ce qui le préoccupe le plus aujourd'hui concernant les fonds marins, c'est la pollution sonore. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ?
C'est la grande catastrophe, parmi les plus grandes catastrophes qui touchent en ce moment l'océan. Vous êtes allé, j'imagine, et puis alors là, on est à côté de la Méditerranée, où là, la pollution sonore est vraiment devenue le problème numéro 2 de cette mer. Effectivement, nous, on a été bercés par Cousteau et son monde du silence. Donc on a l'impression que l'océan, la mer, l'élément liquide, c'est le truc le plus silencieux du monde. En vérité, c'est vraiment un espace, c'est un tissu sonore. Vous voyez, Vinciane Després montre combien l'atmosphère, avec habité en oiseaux, est vraiment un tissu. Comment est-ce que le son permet aux êtres est habité? Comment est-ce que ces espaces, le son, les animaux habitent par le son? Et bien l'océan, c'est exactement pareil. En fait, les coquilles Saint-Jacques, les langoustes, les maquereaux, les sardines papotent dans l'océan. Il y a des gens qui... Je raconte même, à un moment, j'ai rencontré un homme, et là aussi, la frontière entre la poésie et la science est très floue. C'est un homme qui a réussi à identifier les sons des différents poissons. Les poissons font des sons en faisant des claquements avec leur vessie natatoire, et les sardines, elles, laissent échapper des sortes de vents, elles pètent, si vous voulez. Bon, c'est une façon de parler qui n'est pas très appréciée chez les humains, mais les poissons, c'est comme ça qu'ils rentrent en communication avec eux, qu'ils trouvent leur nourriture et qu'ils se reproduisent, qu'ils trouvent aussi... Qui trouvent les femelles les plus fertiles pour la reproduction. Et donc, si ces sons sont brouillés par des bruits de moteur, ils ne s'entendent plus. Ils ne peuvent non seulement plus se reproduire, mais ils ne peuvent même plus manger. Ce qui affaiblit considérablement les stocks de poissons. Et en plus, c'est assourdissant. Un jet ski s'entend à 2 km plus bas. C'est-à-dire que si vous passiez à Lucky Strike, c'est-à-dire que notre bateau, il s'entendait aussi par voie de fait. Mais l'océan est un monde extrêmement bruyant et extrêmement... c'est un espace de très haute et très grande conversation. Donc si nous, on y rajoute des bruits énormes, on voit avec les baleines, ça les empêche de se repérer. Donc c'est une vraie pollution dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est vraiment néfaste.
Il y a une autre figure que vous rencontrez, c'est Kim Juniper. Qui est un des plus grands spécialistes des environnements marins.
Le découvreur.
Voilà. C'est lui que vous comparez à Indiana Jones. Oui. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a formé toute une génération de scientifiques, dont certains qui étaient sur le bateau. Est-ce que vous avez eu comme ça une vision aussi d'un collectif de scientifiques, de plusieurs générations de scientifiques qui est vraiment au travail depuis des années? Est-ce que vous avez senti ça aussi au bout de ce voyage, après avoir rencontré tant de spécialistes? Est-ce que quelque chose vous a marqué de ce côté-là aussi?
Des scientifiques?
Oui,
ah, mais c'est un champ d'amour pour les scientifiques, de toute façon, ce livre. Pour leur travail, pour ce qu'ils nous permettent aussi de découvrir. C'est le premier maillon d'un nouveau changement de relation au monde, comme je le disais. Oui, et puis c'est des gens... Je ne sais pas trop comment dire ça autrement, mais j'ai vraiment rencontré des gens incroyables. Ce livre est vraiment fait par ces scientifiques que j'ai. Et pas seulement, il y a des marins aussi. Je ne parle pas que de scientifiques, il y a des techniciens, il y a des marins. C'est vraiment des personnes qui m'ont vraiment marqué, beaucoup marqué, passionnées, passionnantes. Beaucoup, au bout d'un moment, quand ils sont en confiance, se mettent aussi à rêver et à confier des aspirations, des mystères, des secrets, des désirs, des souhaits. Je ne dis pas quel est le souhait, je le laisse découvrir dans le livre, mais Kim Juniper, qui est donc une sommité, parce que je demande souvent aux scientifiques maintenant, surtout les découvreurs de monde, dont il fait partie, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir maintenant? Alors ça, la réponse est très inattendue.
Peut-être avant de vous donner la parole... Oui, nous avons encore un peu de temps. Je voulais quand même qu'on aborde, on en a déjà un petit peu parlé, de la question politique dans tout ça, dans quelle mesure les États sont concernés, ce qu'ils font, la question aussi des frontières aussi dans ces océans. Il y a des enjeux d'exploitation, on l'a dit. Vous terminez votre récit sur la COP27. Le 7 novembre donc 2022, où la France soutient l'interdiction de l'exploitation de ces fonds. C'est un changement dans la parole, c'est un changement dans l'intention, mais ce n'est pas encore un changement dans la protection, dans le règlement juridique.
On l'a vu. Écoutez, le 8 juin dernier, c'est le jour de la fête de l'océan, et la Norvège nous annonce, le jour de sa fête, c'est quand même un mauvais cadeau d'anniversaire, qu'elle voudrait aller exploiter le fond de la mer Baltique, qui est déjà la mer la plus polluée du monde, donc c'est loin d'être sauvé. Et quand bien même la France interdirait, il faut surveiller ça aussi. C'est bien, hein, moi je me réjouis, hein, vraiment. En plus, c'est arrivé en novembre, j'écrivais l'avant-propos, je m'étais enfermé à la campagne pour finir le livre, et j'entends ce discours qui dit que la France... J'en revenais pas, enfin, personne ne savait ça. Mais ça ne veut pas dire, là il faut aussi que la France non seulement protège ses sources hydrothermales, mais n'aille pas exploiter celles des autres, parce que ça c'est pas encore tout à fait. Et puis c'est touchy, c'est vrai que c'est un... Voilà, les pays veulent aller exploiter ces environnements marins profonds. Comment est-ce qu'on va trouver un règlement qui harmonise ça? Comment est-ce qu'on va empêcher ça? Comment est-ce qu'on va faire comprendre à différentes... Voilà, vous voyez, moi là où je peux me mettre en un peu, que ça me fait de la peine, c'est que souvent dans des débats autour justement de... On dit oui, mais quand même, si vous voulez une transition environnementale, il va falloir aller exploiter les fonds sous-marins. Je leur dis, mais enfin, ce n'est pas une transition environnementale. Si la transition environnementale vise à aller foutre en l'air la dernière partie inviolée de notre planète, c'est une révolution industrielle. Et donc, c'est pas vrai, on ne peut pas faire porter le chapeau à la révolution, à la transition écologique, l'exploitation des fonds sous-marins. Donc, le combat va être difficile, va être dur. Parce qu'il y a les eaux territoriales, les pays peuvent faire ce qu'ils veulent dans leurs eaux, et ensuite il y a les eaux internationales, et c'est encore plus difficile d'intervenir. Moi j'ai espoir, il y a une scientifique que j'aime bien qui travaille sur les manchots qui dit « je suis d'un optimisme désespéré ». Je trouve que c'est assez beau comme expression. En tout cas, il faut réussir à... Faut que ça devienne un débat public en tout cas. C'est pour ça que ce livre existe un peu. Enfin, les scientifiques, ce sera peu, il restera à sa place, qui est une place très modeste. Mais je veux dire, plus on parlera de ce sujet-là, plus ça deviendra un enjeu d'opinion publique.
Et vous rappelez comme exemple de solution, alors c'est juste la fin, vous apesantissez pas dessus, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça serait possible, mais vous rappelez ce traité de 1959 qui fait de l'Antarctique donc une terre non exploitable, une terra nullius. Et vous aimeriez finalement est-ce que ça serait envisageable, est-ce que c'est une solution dont on parle
en tout cas on va tous soutenir, enfin moi je vais soutenir cette idée, je travaille avec aussi des scientifiques dans des collectifs etc. Oui, il y a une fois dans l'histoire moderne où la soif de l'argent et la soif de l'or a abdiqué devant l'émerveillement, c'est le traité de l'Antarctique en 1959. On a dit, à ce moment-là, on a dit, ok, juridiquement, ça devient une terra nullius, la Lune est pareille, mais pas tout à fait sous le même angle. Ça n'appartient à aucun État, il n'y a que des hommes de paix et de science qui peuvent y aller. Aucune arme de guerre, aucune fortification, aucune exploitation commerciale. Bon, le tourisme a fait une petite entorse au traité de l'Antarctique. J'ai appris que depuis le Covid, il y avait 1 million de touristes en Antarctique, un bateau toutes les 2 heures, ce qui là aussi est une catastrophe. 1 million de touristes par an en Antarctique, essentiellement c'est des croisiéristes asiatiques et d'Amérique latine. Mais bon, les Européens pourraient tout aussi bien le faire s'ils avaient des bateaux pour. Mais quand même, ce traité de l'Antarctique, ça pourrait être un modèle extraordinaire pour pouvoir sauvegarder ces environnements barres. Si on faisait des terra nullia, marées nullia, du coup, là pour le coup, nullées plutôt, ce serait formidable. Si on arrivait à faire ce qu'on a. Mais ça veut dire que c'est possible, on a un précédent. Ça, c'est plutôt encourageant. On peut se raccrocher à ça.
Est-ce qu'on peut lire un extrait avant de vous laisser la parole pour quelques questions, histoire quand même de donner à entendre... Alors je ne sais pas, est-ce qu'on repart sur ce que j'avais...
La description. Première fois que je vois les sources hydrothermales.
Voilà, j'avais retenu ce passage, c'est la première descente.
Ça vous dit? Oui. Bon, il y a d'autres descriptions, d'autres écosystèmes, mais... 12 juillet... Première descente. Grâce au Rov Victor et aux écrans de vidéotransmission auxquels je suis collé, je vois ce qu'aucun homme il y a peu n'aurait jamais imaginé voir. Je me sens Christophe Colomb, Pythéas, Dumont d'Urville, Magellan, ou plutôt Neil Armstrong. Une émotion dont je cherche en vain l'équivalent. D'autant que, il faut bien le reconnaître, je n'ai jamais exercé la profession de découvreur de monde. Je n'ai pour la première fois quitté l'Europe que récemment, Et si je sais qu'il existe d'autres continents, c'est qu'on me l'a dit. Et là, l'autre monde m'ouvre ses portes. Lucky Strike est un champ hydrothermal d'un kilomètre carré, au relief très découpé, avec des collines, des sommets actifs, de vastes étendues, des falaises à pic. Premier trouble. Sur les pentes de ces reliefs, les parois s'animent et se meuvent. Ce sont d'immenses colonies grouillantes d'animaux trop enchevêtrés pour pouvoir d'emblée les distinguer. Innombrables, aussi compactes que leur surface de vie est étroite. On reconnaît des poissons. Ils se frayent un passage au milieu de ce qui semble bien des milliers et des milliers de moules géantes, hérissant le tranchant de leurs coquilles, vague évocation pour nous qui cherchons des analogies rassurantes d'un dispositif militaire médiéval. Mais la comparaison avec la Terre que nous connaissons s'arrête là. Tout nous trompe. Tout est changé. Les prairies sont faites de nappes de bactéries que viennent brouter crevettes et autres bactérivores. Bien que plongées dans l'élément liquide, nous n'en apercevons pas moins de la fumée. Anomalie formidable. Des nuages noirs qui naissent de fluides toxiques et brûlants que crachent des cheminées massives aux formes tourmentées. L'eau même ici semble travestir sa nature. Elle est un ciel implacable, un éther carcéral. Sur chaque centimètre carré s'exerce une pression de 170 kg contre 1 kg sur la terre ferme. L'eau, que nous connaissons, est translucide, bleue, verte. Elle joue avec la lumière. Là, l'élément liquide est si dense qu'il empêche celle-ci de parvenir en ces lieux, créant une obscurité dont la nuit même serait incapable. Ces paysages évoquent un monde plongé dans une nuit nucléaire, une terre que le soleil aurait désertée, une planète inexplicablement chassée hors de son système solaire qu'aucune étoile n'éclairerait plus.
Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, un micro va circuler. Donc n'hésitez pas à en profiter. Faites-nous juste un petit signe. Oui. Alors, il y a une question tout au fond. Levez la main, monsieur, s'il vous plaît.
Merci. Quelle chance vous avez eue, vraiment. Ma question, c'est, est-ce que votre regard de littéraire aux échanges, aux références, vous parliez de la Divine Comédie, ont pu, à un moment donné, influencer des interprétations, j'entends des interprétations scientifiques. Vous savez, les scientifiques sont parfois des poètes aussi.
Beaucoup sont des poètes, oui. Mais ils manquent de confiance parfois en leur poésie, hélas. Mais c'est vrai que les scientifiques sont des poètes. Il ne s'agit pas du tout d'opposer, d'ailleurs, les écrivains et les poètes. Après, ça, moi, je laisserai vraiment les scientifiques répondre à cette question. Est-ce que la littérature a ça vraiment... C'est tellement différent. Il y a autant de scientifiques que de... Mais je pense que, de toute façon, bien sûr que les affects sont là. On discutait de ça, hein. Mais je serais incapable de répondre à cette question. Je suis désolé.
Je prends le monsieur. Je pense que vous avez votre place à la COP27. Si vous devriez aller lire des morceaux de votre livre, peut-être que les puissants États de Chine, de Russie et des États-Unis qui ont bien l'intention d'aller racler le fond des mers changeraient leur façon de voir les choses.
Très formidable. Et je crois que c'est Plotin qui voulait fonder une société d'écrivains, de philosophes, et la ville est restée à l'état de ruine. C'est toujours malheureusement les politiques et les écrivains se réunissent peu, mais ce serait formidable. En tout cas, il y a beaucoup d'écrivains qui travaillent. On est nombreux à de plus en plus vouloir exprimer nos émotions face à ce qui est en train de se passer.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui.
Il arrive. Allez, va.
Comment avez-vous fait pour voir ce que vous voyez? Est-ce qu'il y avait un éclairage très violent, très important, et est-ce que des photos ont été prises?
Je répète la question si jamais. Comment ai-je fait pour voir ce que je décris? Et comment? Alors, le Rov Victor, nous le téléguidions depuis un pont, depuis le bateau. Donc c'était des images retransmises en direct. C'était pas un submersible habité, hein. D'abord parce que le seul submersible habité, nous on était au-dessus, on était sur le bateau au-dessus. D'abord parce que le submersible habité, il n'y a que deux places, et les plongées ne peuvent pas durer plus de 10 heures, quand bien même les chercheurs sont reliés, pardonnez du détail, mais ça dit tout, à des poches à urine. Et les manipulations et les analyses que nous devions faire devaient durer beaucoup plus de 10 heures. Donc il fallait que ce fût un robot qui les exécutât. Et... nous étions, alors ça participait au truc, c'était encore plus étonnant parce que donc nous étions sur ce pont, donc qui est le centre de téléguidage et de commande, et là on a l'impression d'être dans Star Wars. C'est-à-dire qu'on est sur un bateau et on rentre dans une sorte d'endroit où il y a 20 écrans avec des couleurs différentes. C'est toutes les caméras du Rov Victor et les pilotes qui le pilotent comme ça. Donc on voit par filtre, et ça participe, et c'est une très bonne question. Ça participe aussi de la magie du truc. C'est-à-dire que, bon, il est minuit, on s'est couché à 21h, on se réveille 3h après, donc on est encore dans le sommeil. On arrive dans ce centre de pilotage qui nous donne l'impression d'être dans un vaisseau spatial, alors qu'on est censé explorer quelque chose qui est à 2 km sous nos pieds. Et en plus, il y a le filtre des projecteurs, et donc on voit sans voir. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça laisse à l'imagination et à la poésie. Et c'est pour ça que c'est toujours très dommage, on ne voulait pas montrer d'images de ces fonds sous-marins parce que ces images sont toujours beaucoup moins fortes, parce que ce sont des images qui sont filtrées par plusieurs médias, si vous voulez. Et là, on le voit avec sa fatigue, avec les moyens technologiques du bord, avec les éclairages qui sont là, avec aussi la bonne volonté des animaux de se montrer ou de ne pas se montrer. Et donc c'est toujours très différent. Et puis il y avait des moments aussi où on partait explorer des territoires qu'on n'avait pas encore cartographiés. Donc le Rov Victor, on le suit, et donc on ne sait pas bien ce qu'on voit. On voit des choses, parfois des animaux qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, donc ça participe, cette espèce de perception, si vous voulez, non assurée, et participe aussi de la magie et du rêve un peu de l'onirisme de ce qu'on voit.
Alors on va terminer là. Peut-être qu'on va juste rappeler quand même que vous intervenez à une autre reprise pendant ce festival, David. Ça sera samedi. Samedi à 17h, une croisière littéraire.
Sur un bateau. Alors, pas le pourquoi pas. Sur un bateau, oui, une croisière littéraire où je dirais des extraits de La Vie Profonde.
À Espagne.
À Espagne.
Merci beaucoup, David Van.
Merci à vous.
Merci à tout le monde. Merci.